Voilà, après cette belle entrée en matière, je vous propose d'enchaîner immédiatement avec la première conférence de Christophe Becker. Et je crois que pour que les enchaînements se passent le mieux possible, il me semble qu'il serait peut-être préférable de reporter les questions après l'intégralité des quatre premières communications et avant la première pause. Donc voilà, si Christophe Becker veut bien.
Bonjour. Je vais commencer par faire comme tout le monde, c'est-à-dire que je vais remercier Solveig et Luc. Puisqu'on parlait de la médiation et du fait qu'il fallait faire le plus rapidement possible, je peux faire mon intervention absolument 15 secondes, pas plus, voire 10. C'est simplement rentrer chez vous et puis essayer de trouver des disques de Stinky Toys et puis essayer d'écouter de la musique de Stinky Toys parce que je suis encore relativement naïf par rapport à l'objectif de la recherche, comme on a parlé avec Solveig hier soir. C'est-à-dire que je pense que la recherche, c'est encore faire découvrir des choses aux gens. Voilà, donc rentrez chez vous et puis découvrez. Voilà, j'ai fini, au revoir. Donc on va commencer par, justement, sur ces deux personnages que vous voyez là, qui sont Denis Quillard, c'est-à-dire Jacques Nau, 1957-2009. Élie Medeiros, donc, qui est né en 1956 à Montevideo, en Uruguay. Donc ce sont deux personnages qui sont relativement singuliers dans la culture punk française. Pourquoi ? D'abord par leur historique, leur chronologie. Jacques Nau est né dans une famille française bourgeoise. Son oncle André Zeller est l'un des fondateurs de l'OAS. Donc il va étudier chez les frères maristes de Notre-Dame de Bury à Margency. C'est là où il va prendre des cours de flûte et des cours de solfège. Et c'est là qu'il va décider de détester tout ce qui vient de l'autorité et détester, entre autres, les cours de solfège, l'autorité. Puis l'hypocrisie peut-être d'une classe sociale qui va désormais refuser, sinon interroger. Élie Medeiros, c'est un petit peu différent puisqu'elle est née effectivement en Uruguay. Elle a vécu à Buenos Aires en Argentine avant d'arriver en France en 1972. Donc les deux vont se passionner pour l'art rapidement. Élie Medeiros va suivre des cours à l'école des arts appliqués. Mais par contre, le problème de Jacques Nau et d'Élie Medeiros, c'est le travail. Entre guillemets, je vous rappelle, le travail, c'est un instrument de torture en latin, si je me trompe, tripalium. Donc ils vont avoir en commun cet ennui métaphysique que Giacomo Leopardi va appeler la noia au XIXe siècle et qu'on va retrouver dans la littérature dite fin de siècle. Cet ennui, c'est quelque chose qu'on va retrouver très rapidement chez les punks, puisque c'est un ennui qui va être chanté par Iggy Pop et par les Buzzcocks, un tout petit peu plus tard. Donc c'est cet ennui qui est d'abord craint, puis qui va être complètement embrassé par les deux que vous voyez ici, qui va permettre la naissance de Stinky Toys, qui va être un des groupes pionniers du punk français. Et là, j'aimerais bien qu'on écoute un extrait vidéo, du premier extrait vidéo. Alors, je suis désolé parce que c'est un des seuls extraits que j'ai pu trouver. Alors, évidemment, c'est Stinky Toys qui joue en playback, puisqu'à l'époque, à la télévision française, on jouait surtout en playback. Donc, je vais revenir sur la naissance des Stinky Toys. Donc, 1976-1979, vous avez Jacques Nau, Albin Deria, Hervé Zenouda et Élie Medeiros. Donc, Deria, Jacques Nau et Zenouda vont se rencontrer au lycée Charlemagne dans le quartier parisien du Marais. Élie Medeiros étudiait, elle, au lycée Victor Hugo de Paris, qui est juste à côté. Donc ils vont se rencontrer, Élie Medeiros va rencontrer le reste de la bande lors des manifestations contre la loi Debré en 1973, donc, et fonder le groupe Stinky Toys, puisqu'ils sont à l'époque encore les meilleurs amis du monde, de 1976 à 1979. Alors, dans les influences qu'on peut trouver à Stinky Toys, je vais vous mettre ici leurs deux albums. Vous avez, comme vous avez peut-être pu l'entendre, les Who, que Jacques Nau admire, les Rolling Stones, Iggy Pop, qu'on a eu l'occasion de voir, le Velvet Underground de Lou Reed et John Cale, qui est toujours une immense influence, Jacquenot aussi a des goûts un petit peu plus hétéroclites, c'est-à-dire qu'il va par exemple s'intéresser à Pierre-Henri. Élie Médéros, qui vient évidemment d'Amérique du Sud, va s'intéresser au tango, à la bossa nova, au jazz, mais aussi à des guitaristes comme le guitariste argentin Oscar Alemán et John Warwick. Alors il y avait quelque chose que me disait Élie Médéros quand je parlais avec elle, c'est qu'elle me disait, je cite, « Mon plus ancien souvenir musical, ce sont les tambours du candombe, les percussions traditionnelles uruguayennes dans les rues de Montevideo l'été. J'avais 3 ans, je partais dans la rue en direction du son. On les entendait de loin et je dansais jusqu'à tomber. » Ce que je trouvais était une formulation assez joli, en tout cas, de sa découverte de la musique à l'âge de 3 ans. Donc, à son arrivée en France, Élie Médéros va écouter davantage de rock. Elle va écouter le Velvet Underground, donc, comme ses co-religionnaires, David Bowie, et peut-être plus particulièrement le rock'n'roll des années 1950, c'est-à-dire Gene Vincent, Eddie Cochran, Vanda Jackson, mais aussi une musique plus contemporaine comme les Stooges et Roxy Music. Alors, Roxy Music est peut-être une influence qu'on cite un peu moins pour Stinky Toes, mais qui est malgré tout extrêmement importante. Donc ce sont des musiciens qui n'ont pas le même background et qui vont s'ouvrir eux-mêmes, enfin les uns les autres, à des horizons mutuels et à des musiques qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Une autre singularité de Stinky Toes, c'est qu'à la différence de la très grande majorité des groupes punk, les membres de Stinky Toes ne sont pas des musiciens débutants. Alors Zenuda a joué pour le groupe Strike Up et Loose Heart, Jacquenot a auparavant été batteur donc pour des groupes éphémères comme Bloodsucker. La référence ultime de quelqu'un comme Jacquenot, c'était Keith Moon, qui était donc batteur des Who jusqu'à la mort de Keith Moon en 1973. Il va abandonner au fur et à mesure la batterie avec Stinky Toes pour la guitare. Il va changer de modèle. Son modèle, cette fois-ci, ce sera Keith Richards. Donc ça va être une nouvelle influence qui va être extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'avant, Jacquenot s'intéressait à des batteurs qui étaient des virtuoses, des gens qui se lançaient dans l'improvisation. Là, il va s'éloigner d'un cadre technique et il va se rapprocher d'un cadre davantage stéréotypique, beaucoup plus simple techniquement, qui va être évidemment donc encore une fois Keith Richards, Chuck Berry, Muddy Waters. Donc les Stinky Toes vont donner leur premier concert le 4 juillet 1976 au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris. Le schéma qui suit va être un schéma relativement classique pour les punks, c'est-à-dire un format court de musique. La notoriété de Stinky Toes va venir en particulier, vous l'avez vu dans les extraits de Lina qui étaient juste auparavant, va venir du fameux Alain Pacadis. Avec sa tête incroyable, qui va dire, je cite, « En décembre 1979, les attachés de presse des grandes compagnies de disques avaient bien essayé de faire croire à des journalistes crédules qu'il y avait bien de nombreux groupes en France, mais l'écoute de quelques disques m'a très vite convaincu que tout cela nageait dans un océan de platitudes. Il y a les Stinky Toes et il n'y a que... » Et il en rajoute entre parenthèses « avec Mark Itzad ». Donc c'est en décembre 1979. Il y a une autre singularité extrêmement importante pour Stinky Toes, ça va être la rencontre avec Malcolm McLaren, qui est le producteur controversé, si on peut dire, des Sex Pistols, et qui a été l'ancien manager des New York Dolls. Donc, Élie Médéros va rencontrer Malcolm McLaren au Hall, et ils vont se faire inviter au 100 Punk Club Festival à Londres le 21 septembre 1960. 16, ici. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que ça va être le seul et unique groupe français à participer à ce concert qui va être un des concerts pionniers, fondateurs de la scène punk internationale. Donc, alors j'ai déjà peu de temps. Donc je vais essayer de sauter plein de choses. L'occasion est d'autant plus déterminante pour les Stinky Toes que, comme on l'a vu auparavant avec Jean Rawls, auparavant il y a eu l'échec du premier festival punk en France qui a été le festival de Mont-de-Marsan en juillet 1976 qui s'est soldé par un échec. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a eu l'agression du journaliste Nick Kent par Sid Vicious au 100 Club le mois précédent. Donc les Sex Pistols se sont vus retirer de l'affiche et The Clash, par solidarité, avait choisi de ne pas apparaître. Autre singularité, Eli Medeiros qui va être interviewé par Caroline Kuhn, c'est ça, me semble-t-il, qui fait la couverture du Melody Maker en octobre 1976, alors que le groupe n'est pas encore signé. Encore une fois, une autre singularité. Pourquoi dans la carrière de Stinky Toys, il y a cette singularité? Eh bien, c'est dû à l'époque, 1977. 1977, c'est une année qui est relativement caricaturée comme l'année de la naissance du punk en Angleterre ou aux États-Unis, à tort ou à raison. Mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, sinon on ne serait pas tous ici. C'est également une complète redéfinition du paysage sonore. C'est pas seulement une année punk, mais c'est une année synthétique. Pourquoi une année synthétique? Parce qu'il va y avoir la naissance et la commercialisation de nouveaux instruments comme les synthétiseurs, le Moog ou plus tard les machines analogiques et numériques. Alors, en particulier, vous avez trois titres, Oui, les pochettes ont un tout petit peu vieilli. Vous avez trois titres ou trois albums en particulier qui vont marquer l'époque, en dépit de la laideur de ces pochettes. Vous avez I Feel Love de Donna Summer, qui a été produit par Giorgio Moroder. Donc, vous avez Flashlight de Parliament, avec une couverture encore plus laide, me semble-t-il. Et la dernière, cette fois-ci qui est un album, c'est Trans-Europe Express de Kraftwerk. Voilà trois disques dont la portée est aujourd'hui encore considérable, puisqu'ils scellent la montée en puissance des machines dans le processus créatif et artistique. Donc je vais faire court. Les machines qui apparaissent sur le marché autorisent l'expérimentation sans pour autant être un musicien confirmé. C'est ça qui va donner une nouvelle impulsion à la carrière d'Eli Medeiros et Jack Noh, qui vont fonder un nouveau groupe par la suite, un duo qui va être le premier duo pop, entre guillemets, en France. Donc le travail de composition va s'en trouver largement facilité. Je vais revenir... Il m'en reste absolument 3 minutes 20. Donc je vais couper la moitié de ce que je voulais dire. C'était beaucoup mieux quand je faisais une présentation de 10 secondes, vous ne trouvez pas? Donc je vais revenir sur... Enfin, plutôt, je vais me tourner vers cet album qui a été extrêmement important et qui va être, encore une fois, le début d'une nouvelle carrière. Ça va être l'album Rectangle de Jack Noh en 1979 et qui résume très bien la singularité du travail de ces deux artistes, parce que ce sont deux artistes qui vont refuser de se laisser complètement... enfermés dans un cadre punk, mais qui vont se tourner, comme la plupart des post-punk, dans un travail qui va se tourner vers la machine et vers une nouvelle forme de composition. Donc j'aimerais bien qu'on écoute le deuxième extrait, c'est-à-dire Anne chercher l'amour, dans une vidéo qui est signée Olivia Sayas. Là. Donc je fais vite, je passe beaucoup de choses parce qu'un quart d'heure évidemment j'ai pas le temps de dire grand chose. Je reviens sur donc Rectangle pour finir, qui est un album expérimental qui va conserver le format punk avec des morceaux courts. C'est un album qui va avoir à l'appui de Pierre Lescure, qui était alors journaliste à Europe 1. Il va rencontrer par la suite un grand succès commercial et une diffusion que n'avait jamais pu avoir Stinky Toys en leur temps. Peut-être parce que vous connaissez la pub Nesquik. Voilà, donc ça a été utilisé par la pub Nesquik. Si vous connaissez la pub Nesquik, sinon c'est pas grave. En 1980, vous avez Lio qui va chanter Amoureux solitaire, donc je reprenais le titre, qui est l'adaptation en français de Lonely Lovers des Stinky Toys. Jacques Noe va assurer la production du 45 tours. Le son, comme les paroles, vont être immédiatement reconnaissables. Ça va être une musique synthétique, minimaliste, qui va complètement envahir la scène française, qui va déborder le punk, qui va déborder une première approche post-punk d'un certain nombre d'artistes français, qui va nous permettre d'arriver, puisque je dois finir en 31 secondes, sur cette nouvelle génération qui a été impulsée, entre autres, par Elie Medeiros et par Jacques Noe, une nouvelle génération que le magazine Actuel, on a vu Bizot il y a quelque temps, a appelé les jeunes gens modernes. Donc par la suite, en 1980, Jacques Noe produira Mythomane, le premier album d'Étienne Dao. Il produira le premier titre de Pauline Lafont, M'oublie pas, en 1986, et j'ai fini en 15 minutes et 1 seconde. Je vous remercie.